Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Quatrième partie. Philosophie de l'évasion. L'homme a désormais goûté aux fruits du désenchantement. Face à un univers qui ne correspond pas à sa demande de sens, il a deux possibilités, la cohérence ou la fuite. Les philosophies qui se réclament de l'existence choisissent selon Camus la seconde. Ce sont littéralement des philosophies de l'évasion. Au lieu de faire face à la réalité, elles veulent nous consoler et nous condamner à l'espoir forcé. Pour Kierkegaard et Chesthoff, pour Husserl et Jasper, la nostalgie est plus forte que la science. Et comme il s'agit de philosophes qui partent de l'absurde dans un univers fermé et limité à l'humain, il faut s'arrêter sur le renversement mystique qui constitue l'aboutissement de leur aventure intellectuelle. Le point de départ, nous l'avons vu, est l'absurde. Une fois que la science moderne brise l'illusion d'un monde animé, semblable à nous, construit pour nous, on n'élude plus l'absurde en le niant mais en le divinisant. L'absurde, comme on le sait, est la lucidité qui reconnaît l'insondable abîme entre le monde comme il est hasard et nécessité et la manière dont se l'imagine l'inexorable nostalgie de la totalité et de l'absolu, à savoir une demeure habitée par le finalisme. Mais étant donné que la réalité nue d'un monde désenchanté provoque, comme l'écrit Freud, une blessure narcissique, l'intolérable sera d'abord décrété irrationnel, puis sanctifié comme un absolu, l'irrationnel est le réel, l'irrationnel est Dieu. Ainsi, lorsque Chesthoff découvre l'absurdité fondamentale de toute existence, il ne dit point « voici l'absurde », mais « voici Dieu ». Ce qui était une relation entre l'attente humaine démesurée et le silence du monde se trouve hypostasié. Ainsi, la griserie de l'irrationnel et la vocation de l'extase réitèrent la trahison de l'absurde et de la finitude au sein même de l'existentialisme, qui en principe se présente comme leur intransigeant gardien. Chez Kierkegaard, c'est le paradoxe même de l'existence, l'antinomie de la condition humaine, qui se trouve hypostasiée et reconnue dans le Dieu chrétien. Si je vis le monde comme un paradoxe et un scandale, alors le paradoxe et le scandale constituent l'être, la vérité du monde. La vérité se trouvera donc incarnée précisément dans la religion qui pose en son centre le paradoxe ultime qu'est le scandale de la croix. On a là affaire à des versions existentialistes de la preuve ontologique. Voici comment elle fonctionne, la réalité est vaine, tout comme la raison. Donc il existe une réalité au-delà de la raison et au-delà de la réalité mondaine du multiple et du fini. Je prends la liberté d'appeler ici suicide philosophique l'attitude existentielle, déclare Camus. Il s'agit en effet de « négation rédemptrice » de la réalité. Voici à quoi ressemblerait en revanche un raisonnement dénué de conclusions mystico-métaphysiques, réalité et raison nous semblent vaines, car l'on s'attend en vain à ce qu'elles satisfassent nos exigences démesurées. C'est dans cet écart constitutif entre réalité et désir, dans cet appétit d'absolu, que s'enracine l'angoisse de la faim qui caractérise la finitude dont nous faisons tout partie. Pour y échapper, on transforme la frustration en preuve. S'il y a un manque, cela signifie que la satisfaction existe. Si reconnaître que la vie se termine par la mort est une souffrance, cela démontre l'existence de l'éternité. Le concept de Dieu implique son existence, selon Anselme de Cantorbry. Le désir d'absolu démontre l'absolu, complètent les philosophes dont le dévouement à la finitude de l'existence, à laquelle ils doivent toute leur existence philosophique, est un dévouement infidèle. le désir d'évasion, qu'il se présente sous des atours philosophiques ou se réfugie dans l'opacité de l'habitude, est alors mis en échec. Nous en connaissons les ruses. Donc, si l'on ne fuit pas, on se révolte. La lucidité dont nous avons dit qu'elle était absurde et désenchantement sera aussi révolte, je me révolte, donc nous sommes. Dont acte. Car ce monde qui rend l'homme contingent, et qui n'est pas l'aboutissement d'un, créé pour lui, ne demeure désenchanté que pour une conscience qui s'évertue constamment à refuser les séductions de l'habitude et les mirages des hypostases. Mais une conscience toujours vigilante est une conscience qui, nécessairement, remet le monde en question à chacune de ses secondes. En d'autres termes, une existence dépourvue de nécessité dans un monde sans but est une existence nécessairement jugeante. Le sens du monde, et de ma propre existence, se choisit, moment par moment. Comme il n'y a pas de données, il ne peut en aller autrement. Naître au monde revient à faire naître un devoir-être. Respirer, c'est juger. Si l'on ne peut justifier, il faut inévitablement juger. Et si l'on juge, on ne peut consentir, se satisfaire, se résigner, car si Dieu n'est pas, le mal, lui, est. La révolte se présente donc comme la dimension éthique à laquelle l'individu ne peut échapper dès lors qu'il a reconnu et fait face à la finitude. Il n'y a plus un Dieu ou une vérité, un sens auquel s'en remettre, auquel obéir, auprès duquel l'on puisse cultiver sa propre irresponsabilité. L'être-là est fatalement normatif, à moins que l'on ne retombe dans le cercle magique qui transfigure l'être-là, le berger de l'être. Le désenchantement dicte donc l'élaboration d'une éthique de la finitude, dans laquelle l'individu ne peut échapper au pouvoir de juger, au nom même du non-sens du monde. L'homme, c'est-à-dire chaque homme, est maître et possesseur de la norme. C'est là l'inévitable conséquence du désenchantement. C'est là l'insoutenable pouvoir de l'homme absurde. Mais il faut alors affronter le problème, le désenchantement ne nous entraîne-t-il pas dans le bourbier d'un relativisme moral nihiliste, où elle, on peut isoler les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. La réponse est sans équivoque, l'absurde, la cohérence dans l'attachement à la finitude et dans le refus du finalisme ne débouche pas nécessairement sur le nihilisme, mais plutôt sur la révolte. Le thème de la révolte devient alors crucial, non seulement parce qu'il est l'inévitable problème de l'individu, mais parce que certaines cultures de notre époque longtemps hégémoniques se présentent justement comme une révolte contre elles, habitudes, séculaires qui refusent la finitude et préfèrent donc Dieu à l'homme. Camus cependant renverse l'interprétation traditionnelle. Sa thèse est que les philosophies de la modernité qui se présentent comme la négation et la critique d'une tradition séculaire qui s'est appuyée sur Dieu commencent par refuser tout ordre métaphysique pour finir par renverser leur raisonnement. Elles ne sont donc pas des philosophies de la révolte mais des cultures du conformisme et du renoncement. Des philosophies qui, au lieu de renoncer à Dieu et de refuser l'idée d'un devoir être génétiquement présent dans le déroulement finaliste du monde, élaborent des succès d'années d'explications théologiques. Nouveau chapitre dans la trahison de la finitude, perpétrée cette fois-ci sous forme d'une trahison de la révolte. Voyons plus précisément comment cette trahison se construit. Fin de la quatrième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.